Alright, c'est 17 degrés sur Québec. Si vous avez des choses à nous dire, c'est le 418-971-1021, 418-971-1021. Il va faire beau toute la journée, sauf peut-être cet après-midi où on nous parle d'orages possibles avec 30% de probabilité d'averse. Pour ce qui est de ce soir, quelques nuages, minimum de 12 degrés. Jeudi, demain, jour de paie pour certains, maximum de 26. L'indice humidex, tout comme aujourd'hui, va ressembler à un genre de 30 degrés comme température ressentie. Vendredi, ce sera de la pluie intermittente avec un maximum de 21. 418-971-1021, 418-971-1021, s'il se passe quoi que ce soit sur la route.
À 8h26, je vous dirais que le bordel est encore pogné, particulièrement dans le secteur des ponts. Sinon, sur la rive nord, puis quand je dis secteur des ponts, évidemment, que le matin, c'est pour passer de la rive sud à la rive nord. Pour ceux qui réussissent à faire la grande traversée, la 40 direction est entre Duplessis et Robert Bourassa, c'est au rouge. Capitale Est, ça s'améliore tranquillement, mais encore des ralentissements à hauteur Robert Bourassa. Capitale Ouest, Ekpeleye, que ça s'améliore pas. Entre Seigneurial et Laurentienne, c'est Benjamin. Robert Bourassa Sud vers le boulevard Le Bourgneuf, c'est au rouge aussi. Arcade Sud, petit ralentissement à hauteur Chauveau. Sinon, le dernier point chaud que je vous mentionnerai, ben, c'est sur Laurentienne vers rue de la Faune.
Vous connaissez à quel point j'ai énormément de respect pour les camionneurs et les camionneuses du Québec qui travaillent dans des conditions qui sont pas toujours évidentes, avec des salaires qui sont pas toujours à la hauteur de ce qu'on devrait leur donner. C'est des gens qui ont pas une grosse qualité de vie, là, mais qui sont tellement passionnés par leur métier, qui acceptent des affaires que toi puis moi, ben on accepterait peut-être jamais parce qu'ils aiment être sur les routes. C'est des gens qui méritent pas mal plus de respect qu'ils en ont là actuellement. Mais dans les dernières heures, je suis tombé sur une publication Facebook. Le site, c'est Assez, c'est assez. Sauvons l'industrie du camionnage. Puis là, je me dis, ah, ben, regarde, des gens qui se prennent en main. Fait que j'ai commencé à lire. Et là, on me parle de lundi inferno, Max. T'as-tu déjà entendu parler des lundis inferno?
Non.
À part dans la circulation, là.
Ben, c'est ça. C'est déjà pas mal infernal, souvent, ces routes-là.
Et là, je commence à lire parce que ça attire mon attention. Des lundis infernaux, je me dis, on va me parler de la circulation, patati patata. Non, non, c'est des camionneurs qui veulent se mobiliser à travers le Québec pour lancer une série d'actions nommées les lundis infernaux. Et eux, ce qu'ils veulent, c'est dénoncer l'inaction des gouvernements face à des enjeux qui sont urgents à leurs yeux. Donc, du 22 septembre au 13 octobre, chaque lundi, il y a une gang de caves qui vont embarquer dans ces lundis infernaux-là, qui vont venir nous faire chier sur nos routes à Québec ou à la grandeur du Québec, mais à Québec, ce serait plus précisément sur le pont Pierre-Laporte ainsi que sur le pont de Québec. Et ces gens-là insisteraient pour créer encore plus le bordel dans la circulation. Je répète, j'ai un grand respect pour la plupart des camionneurs et camionneuses du Québec. Moi, toujours être derrière vous autres. Mais ces matins-là, quand vous allez nous faire chier dans la circulation, je ne serai jamais de votre côté. Mmh. C'est épouvantable, c'est ignoble, cette décision-là. Puis, heureusement, ben moi, j'ai des connaissances dans le milieu du camionnage, des gens qui ont bien du bon sens. C'est la gang de Truck Stop Québec avec qui j'ai le plaisir de m'entretenir chaque lundi. Et le PDG de cette entreprise-là, c'est aussi le gars de maintenance, c'est Benoît Terrien qui est là. Salut, mon ami!
Bon matin, Yannick.
Est-ce que c'est vrai, Ben, que t'es le gars de maintenance? Là?
Aussi.
Oui, c'est moi qui vide les cendriers après que Marceau aille passer. C'est moi qui passe la balayeuse, lave les bureaux. Non, c'est vrai, je fais pas mal de ça.
Dans le fond, il est crotté, Marceau, c'est ça que t'es en train de dire?
Je dirais pas ça. Je dirais que ton qualificatif est faible, mais...
J'ai jamais fumé de ma vie. Hey, Ben, parle-moi de ça, là, de cette association-là de camionneurs de Wish qui se disent « Hey, nous, on veut partir les lundis infernaux à la grandeur de la province, puis on va venir semer le bordel sur la route de 5h le matin jusqu'à 9h le matin. Puis à Québec, ce seraient les ponts Pierre-Laporte et Pont-de-Québec qui seraient ciblés. Ben, dis-moi que toi et tes amis sont pas là-dedans. Là.
Ben écoute, je ne sais pas l'ampleur du mouvement comme à ce qui est actuellement. Ce qu'on peut dire, là, puis je pense que tout le monde va être d'accord, là, c'est l'inaction des gouvernements. Il n'y a personne qui bouge pour la cause des camionneurs. Depuis nombreuses années, pour ne pas dire depuis les 12 dernières années, il y a l'Association du camionnage du Québec qui milite très fort pour essayer de renverser ce qu'on appelle le stratagème Chauffeur Inc.
Oui.
Et aussi, ben, la malformation dans notre industrie. Ces gens-là qui arrivent de l'Ontario, qui causent des accidents, des décès sur nos routes, tout ça. est né le mouvement assez, c'est assez. Ils n'en veulent pas de Truck Stop Québec, c'est correct. Peut-être qu'on pense pas la même affaire, puis ça c'est leur droit. Je respecte ce droit-là.
Ouais. Mais moi, j'ai trouvé peut-être une stratégie derrière ça, Ben. C'est que j'ai l'impression que c'est des gens qui ont énormément besoin d'attention, qui sont derrière ce mouvement-là, et ça leur donne l'occasion de se faire connaître parce que avec leur idée de cave, de semer le bordel sur nos routes, ben ils sont invités dans toutes les stations de radio, tu sais, pour dire « Hey, présentez-nous votre idée de cave. Ouais, salut, moi j'ai mon lundi inforno, là, je vais venir vous faire chier dans votre ville. » C'est vraiment, ça a l'air d'être l'initiative de 2-3 personnes qui veulent passer à la télé, là.
Mais attends un peu, Yannick, invité dans toutes les radios, non. Tu sais, je vais te donner un exemple. J'ai passé la semaine passée à peu près dans tous les médias, OK? Pas pour expliquer ça, mais pour expliquer le nombre d'accidents qu'on a sur les routes.
Oui.
On s'est fait traiter pas plus tard qu'hier même, de dire, bon, ben les recherchistes des radios font pas leur job, ils checkent pas rien, on n'a pas entendu parler de la pétition à nulle part. Donc, visiblement, il n'y a pas d'invitation des chaînes de radio, mais ça, c'est propre à chaque radio. Mais il y a une chose qui est sûre, c'est que, mettons que moi, dans un des lundis, je vais être obligé d'aller à un rendez-vous pour un cancer, mettons, ou pour une maladie très grave. Comment est-ce qu'on va déceler que c'est une urgence, qu'il faut que ces gens-là passent? Parce que je sais, dans leur bon vouloir, ils vont vouloir laisser passer les gyrophares. Mais si, mettons, que j'ai un rendez-vous à 9h le matin à tel hôpital à Québec pour, je sais pas, une opération, ben, je sais pas, mais je pense que je vais être en retard à cette opération-là. Puis des fois, ben, ça peut être un cas de vie ou de mort. On va me dire qu'on cassera pas, on fera pas d'omelette sans casser des œufs. C'est correct. Mais comment est-ce que moi, je suis capable de déceler si je roule pas vite en camion que Madame un tel ou Monsieur un tel a besoin de se rendre rapidement à l'hôpital, même si je fais des signes dans mon auto, pas tellement sûr que le camionneur va comprendre qu'est-ce que je veux lui dire. Puis même s'il comprendrait, est-ce que tout le monde va se ranger sur le côté pour dire ma tante doit aller à l'hôpital, ça urge, ou tu sais, elle a pris son véhicule, elle est pas en ambulance. Moi, c'est ma crainte, OK? Okay.
Mais tu sais que concrètement, Ben, là, tu sais, t'as déjà été dans le trafic, t'as déjà été camionneur, oui. Tu fais des runs une fois de temps en temps, mais t'es un gars qui se spécialise dans le camionnage, t'as un média à cet effet-là, d'ailleurs. Puis tu sais, je comprends l'explication, puis tu sais, on en parle souvent, là, tu sais, on va toujours être là pour les camionneurs et les camionneuses qui ont du gros bon sens, mais là, de venir semer le chaos sur nos routes, prendre la population en otage, ciboire, ça n'a pas de sens. Puis en nous disant sur les pages Facebook, parce que c'est effectivement ce que j'ai lu et ce que tu me mentionnes, c'est « Hey, les amis, là, on va laisser passer les véhicules d'urgence. » C'est juste pour se donner bonne conscience, puis on peut avoir l'air totalement d'une gang de tatas. Mais si tu crées le chaos sur la route, ça va être le bordel partout. Le véhicule de police ou le véhicule, l'ambulance ou les pompiers vont avoir de la difficulté à passer, là. Tu sais, c'est clair et net, puis tu l'as bien dit. Tu sais, le travailleur va rentrer à job 2-3 heures en retard, il va perdre des heures de travail. Souvent, ben tu vas aller porter ton enfant en garderie à une certaine heure parce que ben il faut que tu ailles à une certaine heure. Puis là, tu as les camionneurs qui veulent militer pour de meilleures conditions pour eux autres qui vont t'empêcher de faire tes trucs. C'est ignoble, cette stratégie-là. Puis j'espère juste que tous les camionneurs qui nous écoutent ben disent « Hey, c'est-tu quoi? On n'avait pas pensé à ça. On n'avait pas pensé à ça sous cet angle-là. » Puis on ne se pointera jamais dans ces fameux lundis infernaux-là. Mais cela dit, si vous avez d'autres stratégies pour montrer au gouvernement que vous êtes tanné de toutes les ignominités que vous vivez, ben je vais toujours être derrière vous autres. Mais faire chier la population, c'est la dernière des affaires à faire, Ben.
Ben regarde, le convoi d'Ottawa a-t-il réglé quelque chose? Rien. Il y a eu des convois dans les années antérieures qui ont rien réglé. Celui-là, ben les gens qui l'organisent pensent qu'ils vont régler quelque chose. Moi, je suis très sceptique à ça. Mais avoir eu 15, 20, 30 camions devant le bureau d'un ministre ou d'une ministre à klaxonner pendant toute la journée, ça aurait eu de l'impact.
Oh oui.
Peut-être pas autant qu'on le souhaite. Les médias s'en seraient peut-être intéressés un peu moins, mais ça aurait eu un impact. d'aller, tu sais, ne serait-ce que juste se promener devant ce bureau-là. Il peut y avoir d'autres actions concertées que tout le monde, telle journée, il y a des journées de maladie là prévues par le fédéral, là, parce que le transport est de juridiction fédérale, ben il aurait pu avoir une journée de prise pour ceux qui souhaitent la prendre là. T'es pas obligé de juste apprenner ton boss que lundi, dans un lundi infernal, ben je serai off. Ça pourrait être une autre option. Quand il va manquer juste un peu d'essence ou de denrées périssables sur les tablettes, les gouvernements vont se mettre à bouger, là. Mais tant et aussi longtemps... Prendre la population en otage, c'est que la population va avoir de la grogne contre l'industrie. Après ça, ben il n'y a pas un gouvernement qui va vouloir s'adresser, en tout cas, je pense, peut-être que je me trompe, mais il n'y a pas un gouvernement qui va vouloir s'adresser à la population de camionneurs quand il sait très bien que monsieur et madame tout le monde sont en maudit après l'industrie. Le gouvernement, ça y donne des armes pour ne pas répondre à ce moment-là.
Exactement.
Tu sais, à Ottawa, là, est-ce que Trudeau a sorti? Il aurait pu sortir, dire à... aux organisateurs, bon, venez me rencontrer, viens, on va se jaser, on va parler. Non, non, il s'est dit, la population est à dos contre les camionneurs, même s'il y avait bien des gens sur les ponts, mais ça n'a pas donné grand-chose. Puis, tu sais, on le sait, c'est pas des mouvements qui sont très, très, très favorables. Il y a eu les agents de bord, là, dernièrement, qui ont milité, ils n'ont pas rien bloqué, ils ont milité en bordure de l'aéroport. Ça a fait bouger un petit peu Air Canada, vous allez me dire, mais c'était pas assez rapide. Il a fallu prendre 2-3 jours. Est-ce que de bloquer les routes le lundi, puis ça, c'est ma perception. Un lundi, peut-être qu'il va y avoir du monde, parce que c'est l'effet « wow », c'est l'effet « on va faire bouger les choses ». Je ne sais pas si les policiers vont être très sympathiques à la cause. Est-ce qu'il y aura des constats d'infraction qui seront émis? On ne sait pas. Mais il risque d'avoir peut-être ça pour le premier lundi. On va faire des exemples. Puis après ça, ben les manifestants vont dire « Ah, ben moi, je n'irai pas me sacrer là-dedans. Je vais avoir un ticket. Ça a coûté tant à mon chum. » Fait que il y a tout ça que, tant qu'à moi, là, c'est pas la bonne façon de faire. Ben, rendu là, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. C'est correct. Mais moi, je pense pas que c'est la bonne stratégie. Parfait. Il y a des stratégies qui sont bien moins difficiles et bien plus performantes que de bloquer des accès. Puis j'ai pas de bois dans le véhicule là, mais que personnellement, je voudrais pas qu'il arrive une personne qui sorte dans les médias, puis les médias aiment bien ça dans ce temps-là, qui disent bon ben c'était aujourd'hui, il fallait que je me fasse opérer à cause de ça, ben je vais avoir des problèmes de santé plus dégueulasse, où il y aura peut-être des gens qui vont dire, bon, ben moi, les camionneurs, je veux plus rien savoir d'eux autres, c'est de la chenoute, tout ça, on va perdre l'image là-dedans.
Excuse-moi, Jeff, vas-y.
Ben non, t'aurais pu y aller, je voulais juste savoir, moi, Benoît, qu'est-ce qu'il pensait justement des contrôleurs routiers qui ne font plus leur travail sur la route? Parce qu'encore la semaine dernière, il y a eu un accident mortel dans la région de Montréal. Ben, est-ce que tu te sens sécurité présentement sur les routes ou vraiment pour toi, c'est devenu une problématique alarmante?
Avec les camionneurs qui sont plaqués du Québec, aucun problème. Aucun problème. Pourquoi? Parce que c'est des gens qui, dans 95% des cas, sont assez qualifié, top shape puis très sécuritaire. Quand je vois une remorque plaquée de l'Ontario, surtout si le camion est en arrière de moi, puis qu'il y a un freinage brusque, je vais toujours essayer d'avoir une porte de sortie parce qu'il peut oublier. Les contrôleurs routiers bloqués dans les balances, c'est un résultat d'une cause. En fait, eux autres ont demandé le port d'armes pour être en mesure de se sécuriser quand il y avait des interceptions et tout ça. Suite à ça, la SAC a dit non. Ils ont été devant le tribunal administratif du travail, qui leur a donné raison. Après ça, il y a eu un autre jugement qui dit, tant aussi longtemps que vous n'êtes pas armé, vous devez rester dans les postes de pesée routière, ouais, les fameuses balances, et vous ne pouvez pas sortir.
Ouais. Mais tu comprends la stratégie derrière le syndicat de demander le port d'armes, parce qu'à partir du moment où ils ont une arme à feu puis ils font à peu près la même job que les policiers, ben ils vont demander des salaires qui vont être équivalents aux policiers de la Sûreté du Québec. C'est ça la stratégie, Ben. Combien de contrôleurs routiers à la grandeur du Québec se font agresser chaque jour? La réponse, c'est très peu. C'est très rare comme événement. Donc, il y a une stratégie syndicale pour augmenter les salaires des agents de surveillance. Puis, cela dit, moi, j'aime quand les patrouilleurs sont là puis qui surveillent justement ces 10 camionneurs de l'Ontario qui conduisent tout croche, qui sont même pas capables de reculer une remorque quand c'est le temps de la reculer. Mais l'histoire du port d'armes, c'est dans le but de coter les salaires de la Sûreté du Québec, là.
Bien, l'endroit où je les rejoins, Yannick, là, c'est à 2 h du matin, c'est un petit rang de campagne dans le coin de Stoneham, mettons, puis qu'il y a un camionneur qui fait du transport illicite ou des cargaisons volées ou quelque chose comme ça. Moi, je donne pas cher de la peau d'un contrôleur routier qui l'intercepterait. Puis on le sait, des fois, il y a un véhicule en arrière qui les suit pour justement régler le cas. Fait que on peut appeler les policiers, mais ils sont en short staff, eux autres aussi, fait qu'ils se rendront peut-être pas rapidement. 99% de leur intervention, ils auront jamais besoin de la dite arme. Je pense qu'ils ont du poivre de Cayenne, si je ne m'abuse, quelque chose comme ça, ça ferait amplement l'affaire. Mais pour ce qui est, on a de plus en plus de cargaison d'auto-volés, cargaison de drogue et tout ça. Fait que là-dessus, moi, personnellement, j'aimerais mieux avoir quelque chose me défendre, mais effectivement, pour le reste des cas, si je te demande ton permis de conduire, pas tellement certain qu'on va chicaner puis je vais être obligé de sortir là.
Non, c'est ça. Puis il y a toujours l'assistance de la Sûreté du Québec aussi qui est disponible. Oh, oui. En fait, c'est ce qu'ils doivent faire. S'il y a une intervention qui semble être plus difficile, ben c'est l'assistance de la Sûreté du Québec. Mais tu sais, j'ai pas mal plus peur du gars ou de la fille qui est à la ville de Montréal ou la ville de Québec qui distribue les tickets avec ses fameuses machines à tickets puis son véhicule. Lui, à mes yeux, à moi, lui devrait être armé parce que ses journées sont très difficiles. Je peux te le confirmer. Chaque fois qu'il sort, il se fait engueuler.
Ça doit être assez rough. Mais depuis qu'on a, disons, groundé, là, c'est le terme qu'on utilise dans notre industrie, les contrôleurs routiers à leur poste de pesée, c'est rendu pas mal le Far West sur les routes. Si je te disais là, que je suis même pas obligé d'arrêter au poste de pesée si les lumières flashent là, en étant camionneur, parce qu'ils peuvent pas partir après moi. Je passe en troc là au poste de pesée, peu importe là, et qui serait à 73 dans Beauce, puis que les flashs sont allumés, ben ils peuvent pas partir après moi. Allez pas faire ça là, c'est pas ce que je vous dis, mais il y a une chose qui est certaine, c'est que ben en arrêtant pas, ça veut dire que tu viens quasiment de te déclarer un petit peu délinquant ou tu veux être délinquant. Puis, suite à ça, c'est quoi qui arrive? Est-ce que tu avais des pneus sa fesse? Est-ce que tu avais ce qu'on appelle une défectuosité majeure? Mais personne ne saura. Ils peuvent pas partir après toi. Je sais qu'à un moment donné, il va y avoir des postes de pesée où la SQ va être stationnée là et ceux qui passent droit vont être interceptés.
Exact.
Mais les contrôleurs peuvent pas partir après toi. Ce qui fait qu'on se retrouve avec une qualité peut-être un peu plus douteuse sur nos routes. Puis je le dis, 95-96% des entreprises de transport du Québec sont correctes. Mais on a une maudite batch de l'Ontario, principalement dans la région de Brampton, qui nous font mal et qui, par leur mauvaise expérience de conduite aussi, nous font mal. Puis c'est pas en train de se régler. Est-ce que la ministre Guilbeault n'aurait pas pu, en tout cas avant le remaniement, parce qu'on sait tous qu'elle va disparaître des transports, n'aurait pas pu nous faire un petit cadeau avant de partir puis de régler le problème des contrôleurs routiers? Ça aurait été déjà une affaire positive. Puis suite à ça, ben on aurait peut-être retrouvé une petite quiétude sur les routes. Il est arrivé tellement de décès depuis le début de l'année que j'ose pas croire qu'il n'y a pas un peu de sensibilité de la part des élus de dire qu'il faudrait régler le dossier, il faudrait régler assez rapidement.
Ben, actuellement, Ben, le seul député qui est conscient de tout ce qui se passe avec le phénomène camionneur Inc., puis des camionneurs qui ne sont pas dûment formés, qui arrivent de l'Ontario, qui arrivent au Québec, puis qui tuent des Québécois. Je pense qu'il y a juste mon chef de Ragy, là, qui est au courant du dossier, puis qui prend ça vraiment à cœur. Puis espérons que le prochain ministre des Transports sera un Monsef de Ragy version caquiste, là, parce que sinon, on va se retrouver avec énormément de problèmes. Donc, on revient sur la manifestation qui est prévue des lundis infernaux. Ça va se passer à Québec du 22 septembre jusqu'au lundi 13 octobre. Est-ce que cette organisation-là, un peu louche, avec des influenceurs de Wish, veulent faire, c'est bloquer la circulation sur le pont de Québec, bloquer la circulation sur le pont Pierre-Laporte et enfantchieniser la vie du monde tellement que les politiciens vont se sentir mal, puis ils vont écouter les camionneurs et leurs revendications. Je répète que j'ai toujours été de votre bord sur toutes vos revendications, mais venir faire chier la population à Québec avec vos patentes, mettre du monde en retard, créer le chaos sur la route, je serai jamais derrière vous autres pour cette situation-là. C'est ignoble, votre façon de procéder. Puis pour ce qui est des influenceurs de Wish, là, remarquez-les, vous les voyez vraiment sur les réseaux sociaux. C'est des gens qui ont... Est-ce qu'ils ont la cause à cœur? Peut-être, mais encore plus leur propre cause ailleurs. Puis ils veulent être des influenceurs, bien visiblement avec cette idée de cave, là. Ils ont réussi à le faire pour un certain temps, mais suivez pas ce monde-là. Ça n'a juste pas de bon sens.
Ben, c'est parce que Yannick t'amène un bon point, là. Tu sais, effectivement, la cause, je pense que, tu sais, tout le monde a une écœurantite aiguë dans l'industrie.
Oui.
Est-ce que c'est la bonne façon de faire? Je ne crois pas. Libre à eux de le faire ou de pas le faire, mais on verra le 22 s'il y a beaucoup de gens. Mais il faut que les gouvernements commencent à écouter l'industrie. De quelle façon, je ne sais pas trop, mais il y a des façons de faire qui sont 100 fois plus performantes que de bloquer les routes. Puis, m'a reprendre les paroles d'un entrepreneur dans l'industrie du camionnage. Faire une parade pour faire une parade, il dit n'importe qui peut faire ça, mais faire une parade pour améliorer notre sort, il n'y a jamais personne qui va nous écouter parce que ça n'a pas sa place. Puis si quelqu'un est capable de me prouver que oui, ça a sa place et oui, on peut avancer, puis ça va faire changer les choses, ben qu'on me le prouve, parce qu'actuellement, j'en connais pas de parades qui ont eu vraiment du succès. Puis c'est à peu près ça, là, t'sais.
Benoît Therrien, c'est toujours un plaisir. On se reparle lundi.
Merci.
Salut mon pote, bye bye. L'excellent Benoît Therrien de Truck Stop Québec. On se prononçait un peu sur le dossier des lundis infernaux qu'on veut partir à Québec. Toi qui fais la circulation, Max, déjà le lundi, c'est un asile total sur nos routes. De voir qu'il y aurait des camionneurs qui voudraient créer encore plus le chaos, c'est ignoble comme façon de faire. Il y a d'autres moyens de vous faire entendre. Puis sachez que vous avez des partenaires avec vous autres dans les médias qui sont très au fait de votre travail, qui sont consciencieux, qui comprennent que le phénomène des Camionneur Inc., c'est un cancer sur nos routes au Québec. Ça a tué plusieurs personnes, donc des gens qui sont très peu formés, qui arrivent de d'autres pays, toujours la même nationalité, puis qui malheureusement ont des écoles en Ontario avec des gens de leur nationalité à Miami, un peu comme les Québécois quand ils vont en Floride, là, ils se mettent chum avec des Québécois, puis on devient comme copain-copain.
Pareil.
On se facilite les choses. Problème étant qu'on te donne un permis très rapidement. T'es même pas capable de reculer la remorque. T'as de la misère à virer d'un bord puis de l'autre. Puis tu t'en vas sur les routes au Canada. Ça arrive ici au Québec. Ça arrive d'un côte, les freins sont surchauffés puis capables d'arrêter. Boum! Collision. Ça arrive à Vallée-Jonction. On vire trop sec. Le chargement prend le bord. Ça tue une jeune mère de famille. C'est épouvantable. Ça arrive chez nous. Mais ça, on va toujours être là. On va toujours être de votre bord pour parler avec les politiciens sur le phénomène des camionneurs Inc. Puis qu'il faut qu'ils se prennent en main, tu sais. Mais de faire ce genre de manifestation-là, c'est ignoble.
Je me rappelle pas, c'était... Ben, en fait, je m'en rappelais pas. Puis Fred vient de le dire. Au mois de mai, souvenez-vous, il y en avait une manifestation de camionneurs qui avait paralysé. Puis là, c'était encore plus gros que ce qui s'en vient. Ouais. Moi, j'ai l'impression, là. Mais quand même... Mais là, c'était la ville au complet qui était paralysée.
Mais j'ai participé à ces manifestations-là quand ils ont été, toute la gang de camionneurs, à l'hôtel, pas à l'hôtel de ville, excuse-moi, en face du Parlement. J'étais là. J'étais allé les voir. Ils ont bien fait ça. Ils n'ont pas enfantchénisé la vie de personne. Mais là,
c'est une manifestation dans les règles. Parce que le droit de manifester existe au Québec. Et il faut juste que tu t'entendes avec le département de sécurité pour justement dire « Voici mon itinéraire, voici à quelle heure je vais être là, voici comment on va faire ça. » Et eux, justement, avec les différents corps policiers, vont s'assurer que la manifestation se déroule dans les règles et qu'il n'y a pas de débordement. Donc, c'est une façon de faire au Québec qui est acceptée. Et on se doit, quand on fait des manifestations, de suivre le protocole, justement pour ne pas venir changer la vie drastiquement des citoyens.
Mon chum Jérôme m'écrit, Jérôme est camionneur. Salut Yann, la manifestation des dompeurs en juin, ça n'a pas servi à grand-chose. Et pour ce qui est des lundis infernaux, ça va juste faire en sorte qu'on va encore plus se faire couper sur la route par des automobilistes frustrés.
Mm-hmm.
Ne jamais faire ça. Là. C'est quand vous êtes fondé par un camionneur, ne coupez jamais la route.
Premièrement, il est plus gros que vous autres. Là.
Ça se peut que ça se termine là. 418-971-1021, qu'est-ce que vous avez à dire? 418-971-1021, qu'est-ce que vous avez à dire par texto? C'est les moyens de communiquer avec nous. Actuellement, sur Québec, on a une température qui est fort agréable. Ça pourrait monter avec une température ressentie aujourd'hui jusqu'à 30 degrés, alternant au soleil-nuage pour ce qui est de cet après-midi. On parle de probabilité d'averse avec risque d'orage. Ce soir, quelques nuages, minimum de 12 degrés. Prochain sujet, je vous le dis, les amis, à moins que tu voulais aller au trafic.
Oui, bien, on peut rapidement faire le trafic parce que c'est encore problématique, là, l'accès au pont, justement. C'est encore quand même bien bouché trop pour 8h51. 20 ouest aussi, quand même très difficile entre, j'allais dire chemin des îles, c'est pas vrai, c'est plus entre mi-chemin entre chemin des îles et route du président Kennedy jusqu'à Taniata. Puis sur la rive nord, encore bien jamé sur Capitale Ouest entre Seigneurial et Laurentienne.
Prochain sujet, c'est un sujet qui va être extrêmement lourd. On parle de la fillette de Granby qui a fait la manchette, il y a de ça plusieurs mois. Il y a le rapport de la coroner qui vient de sortir. La coroner, c'est Guéanne Kamel. Elle a pondu un document de 26 pages pour raconter l'histoire de cette jeune fillette de Granby qui est malheureusement décédée. On parle d'une histoire d'horreur, Max.
Oui, tu l'as mentionné, là, c'est 26 pages, mais quand même, les grandes lignes sont assez faciles à comprendre. Ce qu'on vient déplorer du côté de la coroner, ben, c'est vraiment de graves lacunes du système de protection de la jeunesse qui ont mené à la mort de la fillette de Granby. Déjà 2019 que c'était arrivé pour ce qui est du décès. Dans le document qui a été rendu public dans la dernière heure ou à peu près, on décrit un fonctionnement en silo où les besoins de l'enfant ont été ignorés malgré des signaux d'alarme qui ont été nombreux. On parle de plusieurs signalements à la DPJ qui dénonçaient des abus physiques, des mauvais traitements, de la négligence, et ces signalements-là n'ont pas été retenus. Entre 2012 et 2019, 24 fois la police est intervenue au domicile. L'école, qui avait aussi constaté une faim qu'on qualifie de constante de la fillette, des confidences troublantes sur des punitions abusives, on nous raconte aussi que en 2018, au mois de novembre, la fillette de Granby avait été rencontrée par des policiers, une entrevue filmée, mais avait nécessairement reçu des instructions par son père de ne rien dire. C'est ce qu'on en tire aujourd'hui. On dit qu'elle ne souhaite pas parler de ce qui se passe à la maison, ni de sa relation avec son père et sa belle-mère. Fait qu'après 8 minutes, ben on arrête l'entrevue. L'enfant qui dit « ce qui se passe à la maison doit rester à la maison ». Fait que ça, clairement, c'est là qu'on tisse le lien de...
Ouf.
Elle s'est fait dire ça par quelqu'un. Ouais. Ce qui se passe à la maison reste à la maison.
C'était une petite fille de 6-7 ans.
Ouais, 7 ans.
Elle vivait toutes les sortes d'abus. Elle n'était pas nourrie à sa faim. Elle ne buvait pas nécessairement à sa soif. Quand elle arrivait à l'école, la petite, à 6-7 ans, connaissait l'horreur des poubelles.
Ça n'a-tu pas de sens pour pouvoir se nourrir?
Ouais. Mon gars, des fois, il ouvre le frigidaire puis il dit qu'il n'y a rien alors que le frigidaire est
plein. Moi aussi.
Puis il ne sait pas quel jour on est, puis il ne sait pas quelle date on est. Elle, 6-7 ans, pour sa survie, son cerveau a fait en sorte qu'elle a pris connaissance de l'horreur des poubelles pour savoir quand est-ce que la nourriture allait être à cet endroit-là. Ce rapport-là est atroce.
la coroner qui dit, puis il y a quoi de triste là-dedans aussi, mais c'est qu'elle est convaincue qu'il n'y a personne là-dedans qui a agi de mauvaise foi. Mais chacun travaillait dans son silo, puis a oublié l'essentiel, l'enfant. C'est un drame qui relève pas uniquement du réseau hospitalier, de la DPJ ou du milieu scolaire. Ça a été un, entre guillemets, très mauvais travail d'équipe qui a mené à ce qu'en bout de ligne, la tragédie survienne. Puis on peut lire aussi un peu plus loin. Quand un enfant de 7 ans exprime clairement une réticence à parler, on devrait pas être plus prudent, faire preuve d'une prudence accrue, surtout quand l'historique familial est bien documenté. De maintenir la fillette avec sa belle-mère le temps d'être vue par les enquêteurs, c'était pas un lourd fardeau à lui faire porter. Faut-il s'étonner qu'elle n'ait pas voulu parler? C'est dévastateur comme...
Ça arrache le cœur, puis je pense à tous ceux qui travaillent à la DPJ. La plupart des gens qui travaillent à la DPJ que moi j'ai côtoyé, c'est des gens qui sont là pour les bonnes raisons.
Vraiment.
Qui veulent faire
j'en
un bon
connais
travail.
Énormément.
Très souvent, il y a des gens qui sont très vocaux là, sur les réseaux sociaux qui vont se plaindre du travailleur de la DPJ là, typique, là, à ce qu'on me dit. Des fois, il y a de la job qui serait mal fait, mais en même temps, ça doit pas être facile en tant que parent d'être surveillé par la DPJ. La fille de la DPJ ou le gars de la DPJ a une job à faire, puis toi, tu penses que tout le temps était correct ou t'es un tout croche. Puis là, tu te fais dire comment tu devrais élever ton enfant, puis de le nourrir 3 fois par jour, ben c'est tout à fait normal. Puis là, toi, t'es contre ça. Après ça, tu t'en vas sur Facebook, tu fais mauvaise presse aux gens de la DPJ. Ce rapport-là dit que tout le monde était bien intentionné, mais que le problème, c'est qu'ils travaillaient pas nécessairement bien.
Ou pas ensemble, surtout.
Ou ça, t'sais. Ensemble. Les policiers vont devoir prendre acte de ça puis faire une modification au niveau de la DPJ. Ils n'auront pas le choix.
Ouais, ça me fait... Je vais tirer peut-être un parallèle boiteux, mais ça me fait penser aussi à la mort de Jacques Côté, là, où on dit qu'il va falloir plus croire les parents qui parlent justement d'enfants qui ont des problèmes de santé mentale puis qui peuvent justement être violents. Mais où je veux en venir aussi, c'est que je ne sais pas pour vous, mais moi j'aime autant mieux qu'on en retire trop de leur milieu familial que pas assez. J'aime autant mieux qu'on fasse quelques erreurs inverses qu'arrive un drame comme il est là. Ouais.
J'aime ça, on n'est pas d'accord. C'est parce que l'image que je peux te faire, là, c'est comme si tu me disais, tu sais, Yann, j'aime mieux qu'on mette des gens en prison pour agression sexuelle, même s'ils ne l'ont pas commis, que de laisser passer ceux qui ont vraiment commis des agressions sexuelles.
Il y en a qui le pensent.
Il y en a qui le pensent. Mais moi, de mon côté, tu sais, faut que l'enfant qui soit retiré de sa famille, ce soit une job qui est bien faite de A jusqu'à Z. Je comprends que toi, ce que tu veux, c'est la surprotection.
Je suis d'accord avec toi, mais
il
faut que nos indicateurs, faut que notre, je vais le dire de même, là, notre switch à OK, il faut que je retire cet enfant-là de son milieu familial soit plus élevé que pas assez. Parce que dans ce cas-là, il n'a pas été assez. Là.
Souvent, c'est moi qui ai vu comme le dictateur de la place. Mais
ben là, ça me fait plaisir de le like.
Je pense à une justice équitable, puis je pense que les gens de la DPJ, pour la plupart du moins, quand ils prennent une décision, c'est clair et c'est réfléchi, puis c'est une décision éclairée.
Mais vas-y, Max.
Ben c'est que dans ce dossier-là, c'est aussi du monde qui n'a pas été allumé. Là. Je veux dire, c'est assez clair dans le rapport. Quand on dit que la petite fille est amenée en entrevue pendant 8 minutes, puis que ce qu'elle dit, c'est ben elle répond pas vraiment aux questions, puis elle finit en disant ce qui se passe à la maison reste à la maison. À un moment donné, facile d'allumer qu'elle s'est probablement fait dire de fermer sa gueule.
Oui.
Puis à partir de ce moment-là, t'as pas le choix de creuser beaucoup plus loin.
J'aime mieux voir un coupable à l'extérieur de la prison qu'une multitude d'innocents en prison.
Je suis d'accord avec ton point. Moi, ce que j'amène, c'est que je veux que la DPJ, les intervenants qui touchent à l'enfance, policiers compris, gens dans des organismes communautaires, gens à l'école, je veux qu'on augmente la switch à « OK, là, on est en train de vivre une problématique, attardons-nous à cette problématique-là plus en détail, plus en profondeur. » C'est ce que je veux parce que dans ce cas-ci, ça connaît l'horaire des vidanges pour manger. Il ne peut pas croire qu'elle reste sous la supervision de son père.
Marie-Ève dit « Salut, je m'excuse, mais quand la grand-mère de la fillette sonne l'alarme dans ma tête, on a manqué de vigilance puis pas à peu près de la compassion. On a manqué de vigilance, de compassion et on a fait l'autruche dans ce dossier-là. Jeff parle d'ouverture de dossier de suivi, pas de prison. »
Ben, en effet.
En fait, ce que tu as dit, c'est que tu voulais qu'on retire plus d'enfants que pas assez. mais faut que ce soit, faut qu'il y ait des preuves comme quoi, puis dans ce cas-ci, les preuves étaient toutes là, là. Faut qu'il y ait des preuves comme quoi on doit retirer ces enfants-là des parents qui sont totalement irresponsables. Mais bref, OK, on y reviendra si tu veux, mais bref, il y a un article qui est écrit, qui est quand même bien fait là, dans le Journal de Québec, sur la petite fille de Grimbay, ça crève le cœur. 8h59, enfin une courte pause. Si vous avez des choses à nous dire, c'est le 88-971-1021. 88-971-1021. On vient.
Marceau le matin.